je devais retenir deux grands mouvements dans l'actualité de cette année 2019, qui se termine ce soir, ce serait, d'une part, l'écologie, le climat, ces préoccupations environnementales qui font enfin la une, qui réveillent les consciences. Et puis, d'autre part, ce serait le féminisme, ces femmes qui luttent contre la domination, contre les violences, qui crient leur ras-le-bol d'un monde en déséquilibre. Et si les deux étaient liés, l'écologie et le féminisme, c'est tout l'objet d'un champ d'études encore méconnu en France, l'écoféminisme. Pour répondre à toutes nos nombreuses questions sur cette pensée, nous recevons la chercheuse Myriam Bahafou. Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000, le standard est ouvert, sur les réseaux sociaux également avec le mot-clé « l'attaque ». Du béton et des arbres dans vos solutions pour la planète, Hugo Mercier nous racontera comment il fait pousser des potagers sur les toits des immeubles. Qu'est-ce que ça donne comme couleur quand on mélange du vert au gris? À la fin de l'émission, Père Castor, Mère Castor et leurs deux enfants, les castors, ces gros rongeurs semi-aquatiques, sont de retour en France. Paul Hurel, coordinateur du réseau Castor, sera notre invité découverte. La Terre au carré est réalisée aujourd'hui par Étienne Bertin avec à la technique Benjamin Orgeret et Michel Béziquian. Bienvenue.
Élodie Font. La Terre au carré. Sur France Inter.
Le vent de femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers.
Extrait de l'hymne des femmes. Bonjour Myriam Bahafou. Vous le connaissez par cœur ou pas?
Non, pas encore.
Pas encore. C'est au programme de cette année 2020.
C'est ça, bonne résolution.
Merci donc de terminer 2019 avec nous. Vous êtes doctorante en philosophie et en études de genre, en cours d'écriture d'une thèse sur l'écoféminisme. Écoféminisme, peut-être que vous qui nous écoutez ne connaissez pas le terme, pas encore, vous allez le comprendre, et peut-être ne voyez-vous pas le lien, les liens qu'il peut exister entre l'écologie et le féminisme. Vos réactions, vos témoignages sur l'écologie et le féminisme, 01 45 24 7000. Myriam Bahafou, commençons par le cœur du sujet. C'est quoi l'écoféminisme?
C'est une question qu'on me pose assez souvent ces derniers mois, ce qui est plutôt bon signe puisque les gens s'y intéressent, semblent au moins s'y intéresser. Déjà, il faut savoir qu'en France, c'est un mouvement qui a très peu percé en tout cas. Donc je suis doublement heureuse d'en parler aujourd'hui ici.
Encore assez méconnu, c'est vrai.
Oui, et même au sein même des mouvements féministes. Donc le mot écoféministe est en fait né sous la plume de Françoise Daubonne, qui est une femme française. Donc on peut être fier de ça. En 1974, dans son livre Le féminisme ou la mort, c'est un mouvement qui a été principalement développé, théorisé dans les États-Unis entre les années 70 et 80, mais aussi dans beaucoup de pays des Sud, donc en Inde, en Afrique, en Amérique latine. Plus concrètement, en fait, c'est des luttes qui se sont organisées autour de la défense du vivant, disons en général. Par exemple, les mouvements antinucléaires, les mouvements contre la déforestation, contre la privatisation des semences. Beaucoup de mouvements de ce type dans ces années-là ont été menés par des femmes. Et en fait, c'est pas un hasard. Si les femmes étaient plus proches, en fait, de
la nature.
De la nature, ou du moins de la défense, en fait, de la nature.
Oui.
Qui est une mobilisation des femmes à cet endroit-là, c'était pas un hasard. Et donc, l'idée principale, en fait, c'est de dire que l'oppression qui est perpétrée sur la biosphère, donc dénoncée par l'écologie, le mouvement écologique, a tout à voir en fait avec l'oppression perpétrée sur les femmes. Et que donc, le truc plus positif, c'est de se dire qu'une société plus écologique devra forcément remettre en question notre attitude, disons, patriarcale vis-à-vis de la nature. Une attitude masculine, dominatrice.
Donc si je comprends bien, le maître mot, c'est la domination. C'est d'un côté l'homme avec un grand H domine la nature, avec, on en parle beaucoup dans cette émission, des conséquences désastreuses, et de l'autre, l'homme avec un petit H qui domine la femme, parfois dans la violence. C'est ça le lien que vous faites entre l'écologie et le féminisme.
C'est ça, c'est de se dire en fait que la définition de l'humain, donc comme vous dites, homme avec un gros H, homme avec un petit H, c'est ce qui est drôle en fait, c'est de voir qu'il y a une confusion qui devrait pas exister parce qu'en fait les personnes qui assassinent le vivant, les personnes qui sont dans les places de pouvoir, en fait, qui détruisent la biosphère, en général, ce ne sont pas des femmes, en fait. Et que même ce pouvoir-là, cette domination-là, a été structurellement établie contre le vivant, mais aussi contre les femmes, les minorisés de genre, et tous les gens, en fait, qui étaient catégorisés plutôt du côté de la nature. Et en fait, finalement, ce qui était catégorisé du côté de la culture avait une valeur supérieure qui devait être appliquée de force dans le monde dans lequel on vit. Donc en fait, finalement, la catastrophe écologique qu'on connaît, elle n'est pas due simplement à l'homme avec un grand H, mais elle est due aux hommes avec un petit H, et plutôt aux idéaux masculins, en fait, qu'il y a derrière, aux idéaux virilistes, en fait, qu'il y a derrière. Donc il faut questionner, à un moment donné, cette domination masculine si on veut arriver, en fait, à une société plus écologique.
Vous travaillez beaucoup, Myriam Bahafou, sur les liens entre le féminisme et le véganisme. Peut-être, pour que l'on ait une image qui parle à tous, imaginons que nous sommes en plein été, je sais, c'est un peu dur, un 31 décembre, on est entre amis, un barbecue s'organise, et qui à mon grand âme, allume le feu des hommes.
Y a de la fumée qui plane sous le Jackson. L'odeur de la viande grillée allège les piétons. Chaque gars de la tête a sorti un billet de son jean. Direction, la boucherie mousseline. Bah ouais, ma cousine, on a fait le plein de viande. Y a des brochettes, des merguez. C'est pas tous les jours que Titouille fête ses 22 ans. Mais pas de carré vide, champagne et de son glaçon, non. C'est carré de zip, barbecue, feu de charbon.
Soleil, je sais pas si vous connaissez les paroles de cette chanson-là.
Maintenant, je crois c'est trop tard.
Qui parle de barbecue. Comme si faire cuire de la viande, finalement, ça avait quelque chose de viril. Vous parlez justement de ces idéaux virilistes. Le barbecue, ça en fait partie.
Ah oui, bah le barbecue, c'est une, y a toute une symbolique hautement masculine derrière par rapport, déjà à la place justement du barbecue. Qui cuisine la viande? Qui la mange? On voit très bien un homme dans un restaurant dire voilà, moi je veux un steak saignant, quoi. Enfin, il y a vraiment des images qui sont très fortes dans l'histoire de cette consommation de la chair, en fait. Et puis quand on essaye d'avancer un petit peu plus loin, on voit que la chair animale, la façon dont elle est consommée, emballée, préparée, représentée, est très proche souvent de la façon dont on imagine les corps féminins, en fait. Et il y a tout ce côté-là, justement, de prédation, de chasse, qu'on peut retrouver derrière et qui, moi, m'a beaucoup frappée dans mon expérience personnelle, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à faire du lien entre, la domination qu'il y avait, en fait, sur les corps féminins, féminisés, et la domination qu'il y avait sur des corps animalisés et animaux.
Quand vous parlez d'expérience personnelle, c'est-à-dire?
Je voyais que pour moi, ça me paraissait absolument logique, par exemple, de donner le plus gros morceau de viande à l'homme qui avait à table, en fait. Ou ça me paraissait plus logique qu'un homme mange plus, en plus grande quantité, avec plus de chair, plus de sang dans l'assiette, et qu'en fait, nous, en tant que femmes, c'est bien de se contenter d'une petite salade, quoi, avec une petite vinaigrette, c'est cool.
D'ailleurs, je pense que vous avez tous fait l'expérience dans un restaurant, une brasserie. Si vous allez avec des amis, il y a un homme, une femme. Si quelqu'un commande un burger et que c'est la femme, vous allez forcément voir le serveur arriver avec le burger et le mettre devant l'homme.
C'est ça. Oui, ça m'est déjà. Après, on peut décliner l'alcool aussi. Enfin, il y a vraiment un genre, en fait, des pratiques alimentaires. Et c'est ça aussi de se dire que dans le combat écologique et dans notre façon même d'appréhender le monde autour de nous, tout est genré, en fait. Donc, plutôt que juste s'arrêter à cette donnée, l'idée de l'écoféminisme, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut bidouiller avec ça, qu'est-ce qu'on peut trouver derrière, en fait, quelles solutions, quels outils on peut mettre en place. Et moi, en tout cas, d'associer le véganisme et le féminisme, ça a été une évidence par rapport justement à la lutte et au combat qu'on pouvait mener. Ça donnait en fait envie d'aller plus loin et de construire des choses. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait une littérature très prolifique sur le sujet, ça m'a conforté, en fait, dans mon idée.
Pourquoi?
Parce que je me dis que j'étais pas folle, déjà. Parce que quand on est féministe, en plus végane, je peux vous rassurer, le monde entier autour de vous va vous faire croire que vous êtes complètement tarée. Et puis ça rassure en tant que chercheuse, en fait, de se dire qu'il y a des personnes qui ont écrit là-dessus. Là, je suis en train de lire un livre en ce moment sur le parallèle entre le spécisme, donc la façon dont on traite les animaux et la façon dont les corps esclavagisés ont été traités. Alors, je sais que le sujet est extrêmement, délicat. Mais il est vrai qu'il y a eu des structures et des outils et des modes, des processus, des modes de transport qui ont été faits de la même manière, en fait, du côté de la domination animale et du côté de la domination humaine. Donc c'est pour ça qu'en fait, séparer les animaux et les humains, pour moi, c'est vraiment un obstacle, en fait, à l'écologie. Si on veut penser l'écologie aujourd'hui, il faut au contraire penser en termes de communauté, de lien, de coopération, autant du côté social que du côté naturel. Et c'est pour ça que même cette frontière-là, elle est discutable, en fait.
Historiquement, d'ailleurs, vous dites que lorsque l'homme a commencé à domestiquer l'animal, le statut de la femme a changé. Pourquoi ?
Bonne question. C'est toujours en cours. On essaye toujours de trouver la réponse. Donc ça, c'est Françoise Daubonne qui le dit. Et puis, à mon avis, elle a pas forcément tort. Même si évidemment, c'est un des temps tellement reculés à la préhistoire qu'aujourd'hui, on a très très peu d'informations pour vérifier en fait ses propos. Mais en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que l'idée de la chasse, ce que j'appelle le mythe de la chasse, c'est quelque chose qui est énormément convoqué jusqu'à aujourd'hui pour justifier en fait la domination masculine.
C'est quoi le mythe de la chasse ?
Alors le mythe de la chasse, pour aller très vite, c'est l'idée en fait selon laquelle, puisque les hommes ont commencé à chasser, les hommes seulement, hein, quand je dis les hommes, c'est vraiment un petit H, la moitié du genre humain a commencé à chasser, donc en fait ça a justifié une attitude agressive sur le vivant, et donc ça justifie aujourd'hui, hein, c'est un peu ça l'excuse, ça justifie le fait que finalement, bon bah l'homme, quand même quoi, c'est lui qui ramène le mammouth à la maison, donc... Donc nous, on doit
penser que ça existe encore.
Ah oui, enfin je le vis, je le sens. Je peux vous défier de demander un peu avec des personnes antiféministes quels sont leurs arguments premiers. Et vraiment, il y a ce truc du mythe de la caverne, du mythe de la chasse, de la préhistoire qui revient énormément. Et ailleurs, qu'on voit ça dans les pubs, à la télé, dans la littérature, c'est beaucoup plus subtil. Mais vraiment, cette idée-là que l'homme en fait doit ramener, disons émettre de la survie en fait de la famille. Donc en fait finalement c'est sur lui que tout repose et puis la femme devrait se contenter d'être sur le côté et éventuellement cueillir. Voilà, ça peut être cool pour nous, juste cueillir un petit peu quelques baies. Et voilà, il y a une dévalorisation qui est extrême en fait et que je perçois encore aujourd'hui.
Dans l'écoféminisme, on parle beaucoup de réappropriation. On va en reparler tout à l'heure. Que pensez-vous, vous qui nous écoutez, de ces liens entre écologie et féminisme? Vos témoignages, vos questions à la chercheuse Myriam Bahafou qui y répondra dans quelques minutes au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr avec le mot-clé « l'attaque » sur les réseaux sociaux.
France Inter. La Terre au carré.
Mais avant, pour continuer sur notre lancée, nouvelle diffusion de la chronique Camille Passauvert qui racontait, le 6 novembre dernier à Mathieu Vidard, sa rencontre avec des chasseurs. Ça va vous plaire. Et vous allez l'entendre, il y a aussi des femmes. Amis de la nature, d'ailleurs, voici leurs animaux préférés.
La palombe, chez nous, c'est l'oiseau de prédilection, la bécasse.
Le lièvre, le pigeon, le sanglier, les canards, la perdrix grise aussi un petit peu. Bécasse, faisan, perdreau, ainsi de suite.
Plutôt les lièvres et les faisans.
Vous avez compris que nous sommes en compagnie de chasseurs et il y a aussi des femmes.
Moi, c'est la chasse à la bécasse. C'est un oiseau qui est très intelligent, qui vient de Russie, qui va en Afrique, qui est... extraordinaire et très difficile à chasser.
Alors les chasseuses et chasseurs, vous le savez, sont eux aussi objets de ce qu'on appelle bashing, un peu comme les agriculteurs, accusés de faire du mal à notre environnement. Le naturaliste Pierre Rigaud était venu ici même argumenter en présentant son livre « Pas de fusil dans la nature ». Selon lui, la moitié des 30 millions d'animaux tués chaque année à la chasse sont des oiseaux sauvages dont les espèces sont en déclin pour certains. Pierre Rigaud estime que la chasse dérégule les équilibres écologiques et il n'est pas le seul, hein. Nicolas Hulot a signé par exemple la préface, sujet très clivant, donc j'ai voulu savoir ce que les chasseurs avaient à répondre et ça tombe bien, ils étaient en assemblée générale il y a quelques jours. Vous iriez jusqu'à dire que vous êtes un écologiste ou pas?
Je veux que je sois un écologiste quand je vois que les écolos, ils achètent des territoires énormes, des zones humides et ainsi de suite. Ils sont contents, ils nous piratent des espaces. Ils en font quoi après de ces espaces? Ils en font que dalle. Vous avez une végétation...
Pour préserver la faune et la flore.
Non. Alors attendez, c'est un effet tout à fait contraire. Ils nous reprochent à nous, quand on a des espaces, de les entretenir pour avoir du gibier, c'est vrai, mais on ne tue qu'un petit pourcentage de gibier. Eux, ils font des sanctuaires qui ne sont pas entretenus, et c'est complètement négatif.
Les chasseurs seraient donc indispensables à l'environnement. Phrase signée Willy Schran, président de la puissante Fédération Nationale, qui enchaîne.
Aujourd'hui, on dérègle tous les écosystèmes quand on enlève la chasse. Ça plaît pas de l'entendre, mais c'est quand même la vérité.
Et son grand argument, c'est l'argent.
C'est des centaines de kilomètres de haies qui sont plantées tous les ans, des milliers d'arbres qui sont plantés avec l'argent de la chasse. L'entretien des zones humides, l'entretien des forêts, ça c'est 4 milliards d'euros écosystémiques d'apport à la nature.
Mais est-ce que l'argent suffit pour dire qu'on est écolo?
Oui, on est écolo parce que quand on a chassé pendant quelques dimanches, on pose un fusil et on va s'occuper de la nature.
Autre raison invoquée régulièrement par les chasseurs, la régulation, les sangliers, les chevreuils en particulier. Et puis, ils ne tuent pas toujours. Cette fois, c'est un chasseur de la région paloise qui se défend.
Moi, je lève pratiquement 35 bécasses dans une année. Je pourrais en tuer sur 35, allez, une quinzaine.
Il m'en faut 7 pour faire un repas avec les amis. Je m'arrête à mes 7 bécasses de prise, justement pour faire ce repas avec les amis. Les autres, je ne les tire plus.
Pour un autre de la Manche, l'image anti-écolo des chasseurs ne vient que des préjugés.
Il y a quand même beaucoup de gens qui donnent des leçons, qui sont en ville et qui n'y connaissent strictement rien.
Et lui en connaît un rayon en termes de protection de l'environnement.
Vous, vous êtes exploitant agricole ?
Oui.
Vous utilisez des pesticides ?
Oui.
Du glyphosate ?
Oui, c'est sans doute le produit le moins dangereux.
Le glyphosate ?
Ah oui.
Mais est-ce que vous vous considérez comme un défenseur de la nature ?
Bien entendu. Mais je comprends que sur France Inter, vous avez du mal à entendre ça.
Allez, bim, hein, fallait bien qu'on s'en prenne une. J'ai pourtant, moi, en allant les voir, essayer de comprendre ce qui anime le million de chasseurs français, je les ai écoutés comme notre chasseuse de l'Isère.
Nous sommes des écologistes. Nous participons à la défense de la biodiversité.
Et comment on est écologiste et on défend la biodiversité en tuant des animaux ?
Eh bien, alors, d'aller tuer des animaux, ça nous permet de rentrer en, je veux dire, en connexion avec la nature.
Oui, ça peut interpeller comme réponse. Voici la suite.
Je vous dirais que chasser un animal, c'est l'aimer. C'est assez ambivalent, contradictoire, si vous voulez. C'est difficile à expliquer pourquoi on va tuer cet oiseau qui ne fait de mal à personne et qui est au contraire très intelligent, qui arrive à se soigner tout seul. Et moi, je ne peux expliquer ça en mon fort intérieur que par cet acte d'aimer cet animal, cet oiseau.
Je t'aime, donc je te tue. J'avoue avoir un petit peu de mal à comprendre, mais les chasseurs ne pourront pas m'en vouloir d'avoir essayé en leur donnant la parole. Camille Passauvert, à réécouter sur franceinter.fr. Myriam Bahafou, les chasseurs, selon vous, écolo ou non ?
Si le meurtre est la nouvelle écologie, alors oui, je dis.
Allez, carrément. Myriam Bahafou, la chercheuse, est notre invitée ce mardi. Dans quelques minutes, elle répondra à toutes les questions que vous vous posez sur l'écoféminisme. Vous nous appelez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au Carré et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé LATAC, L-A-T-A-C.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le rêve est ça. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes, et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête, arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Qui est bête?
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi, ce que vous avez compris. Le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi, tu pars avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles, et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
Il s'adresse aux enfants qui dessinent des bonhommes. Philippe Catherine et sa poésie sur France Inter.
La Terre au Carré, le magazine de l'environnement. Élodie Font. sur France Inter.
Nous passons cette première demi-heure en compagnie de la chercheuse Myriam Bahafou pour parler avec elle d'un concept encore méconnu en France, l'écoféminisme. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Nous sommes en ligne avec Gilles. Bonjour Gilles.
Oui, moi.
Vous nous appelez d'où ?
De Lyon.
De Lyon. Votre question pour Myriam Bahafou.
Eh bien voilà, est-ce qu'elle est d'accord avec moi pour faire un lien entre la maîtrise de la fécondité pour émanciper la femme, donc comme victoire du féminisme, et la maîtrise de la fécondité pour préserver
On vous entend très mal. Est-ce que l'on fait un lien entre le féminisme qui prône le contrôle des naissances, c'est ça, et le féminisme? Oui, répétez, oui, s'il vous plaît.
Oui, contrôle des naissances. Moi, j'ai dit maîtrise de la fécondité, mais c'est pareil, dans le fond. Le lien entre maîtrise de la fécondité pour émanciper la femme, d'une part, et d'autre part, pour préserver la planète. Donc la même pratique qui sert deux causes différentes et qu'on peut donc lier.
Merci Gilles. Myriam Bahafou vous répond.
Oui, je serais absolument d'accord pour lier les deux. Et je pense même que c'est une des origines principales de l'écoféminisme, en fait, de dire qu'à un moment donné, on a voulu contrôler la fécondité du corps des femmes et la fécondité de la terre. C'est ce que dit vraiment quasiment mot pour mot Françoise Daubonne dans ses livres. Donc oui, il y a vraiment eu un assaut sur les corps, donc les corps écologiques, les corps, les semences, et une confiscation en fait de ce pouvoir reproductif par une catégorie d'hommes, pour dire en fait finalement c'est nous qui avons le pouvoir absolu de contrôler vos corps et de surtout les faire se reproduire à l'envi. Donc moi je le vois sur la terre, sur le corps des femmes, mais aussi sur les corps des animaux. Qu'on pense à l'industrie laitière, aux poules, enfin voilà, il y a vraiment eu une confiscation du corps femelle en ce qui pourrait être reproducteur. Donc oui, je serais tout à fait d'accord avec ça, et même certaines écoféministes vont plus loin en se montrant assez critiques en fait finalement vis-à-vis de tout ce qui est technologie reproductive, assistance on va dire médicale autour du corps féminin. Là on peut parler aussi de l'histoire de la gynécologie qui est dramatique, hein, parce que c'était quand même une catégorie d'hommes qui ont utilisé des corps de femmes, notamment des esclaves, comme des cobayes, vraiment comme des terrains d'essai en fait d'une science moderne et expérimentale. Donc voilà, il y a énormément de liens qu'on peut faire, mais oui, sur le thème de la fécondité, je trouve qu'il est absolument central et je serais tout à fait d'accord.
Géraldine, sur l'application France Inter, nous dit « J'ai découvert l'écoféminisme à travers l'ouvrage d'Emily H, Reclaim, et cela m'a réconciliée avec le féminisme. Le corps et les émotions y ont une place importante alors que certains mouvements féministes les mettent de côté comme si nous devions gommer ces spécificités pour être égales. Vous êtes d'accord ?
Absolument d'accord, et même beaucoup plus radical. Oui, je pense que en France, en tout cas notamment, et c'est pour ça à mon avis que le mouvement n'a entre guillemets pas pris, en France on s'est beaucoup calqué sur cette idée-là d'égalité homme-femme, que je ne rejette pas complètement évidemment, sinon je pourrais pas être là à parler, en pensant que c'était l'essence, en fait, le but, l'objectif ultime du combat féministe. Or, d'autres façons de faire le féminisme, notamment par l'écoféminisme, mais aussi l'afroféminisme ou les mouvements queer, enfin il y a énormément d'autres mouvements de contestation du genre ou d'exploration des genres qui nous montrent qu'en fait on devrait aller au-delà de cet égalitarisme qui est complètement insuffisant et de se dire finalement de qui je voudrais être l'égal. Est-ce que je veux être l'égal d'un homme dans un monde écocide? En tout cas moi c'est pas le cas. Et puis quitte à être
qu'est-ce que vous voulez alors?
Moi je veux qu'on casse complètement ce truc d'égalité, qu'on casse complètement ce truc capitaliste, qu'on casse pas qu'on ait les mêmes revenus dans les entreprises, mais qu'on casse même l'idée d'entreprise. Enfin voilà, ça, l'écoféminisme, en fait, faut pas oublier que c'est un mouvement qui est extrêmement radical. Donc c'est pas juste faire ses couches lavables et puis manger bio, quoi. C'est vraiment de se dire qu'il y a une contestation,
ce qui est déjà pas mal.
Non, je le condamne pas en fait, mais on peut avoir aussi cette idée là de se dire c'est juste un réaménagement. Mais non, l'écoféminisme, en fait, c'est vraiment de se dire que dans la racine, dans l'idée même de la nature qu'on a, dans la façon même dont on pratique l'écologie, il y a du genre en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour essayer d'abolir ça ? Et on voit à quel point en fait c'est contestataire et c'est anticapitaliste, c'est antiraciste. Enfin voilà, ça convoque énormément de notions qui peuvent être très déconcertantes. Mais en tout cas, ce côté-là cette réappropriation du corps, le fait de dire j'ai un corps, je sens mon corps et je suis fière de mon corps en fait, je sens que je vis. Pour moi, c'est ça, en fait, l'écologie aussi. C'est vraiment de se sentir vivre. Et c'est vraiment d'aller du côté d'une écologie, je dirais même, je sais pas comment dire, atomique, cellulaire, énergétique. Enfin voilà, ça va vraiment dans un truc beaucoup plus loin, en fait, de dire simplement on protège la nature.
Vous parliez de couches lavables. Oui. Il y a quelques instants, Myriam Bahafou, un des problèmes que soulève l'écoféminisme, alors c'est un des problèmes à la marge, hein, mais c'est aussi la charge mentale. Parce que dans cette évolution de la société, qui va faire sa lessive maison? Qui va aller acheter les couches lavables? Qui va coudre des collants pour en faire une éponge? Alors évidemment, on caricature. Évidemment que des hommes le font. On ne peut pas dire que...
Assez peu.
Si, sans doute qu'il y en a qui le font. On n'a pas des chiffres, on n'a pas de chiffres là-dessus. Mais la charge mentale écologique pèse quand même de nouveau sur les femmes.
Bon, le travail domestique, c'est quand même quasiment les trois quarts en général pour les femmes. Donc à mon avis, que ce soit écolo ou pas, c'est toujours nous qui devons nous taper la cuisine, même si le monde est en effondrement.
Mais vous dites qu'il faut se réapproprier la cuisine.
Mais je pense qu'en fait, paradoxalement, alors oui, c'est une... C'est une place où on n'a pas envie d'être, c'est clair. Mais en tout cas, l'autre côté, c'est-à-dire se dire finalement, je vais sortir de la sphère domestique, je vais essayer de gagner ma place dans le monde public, je vais essayer d'être aussi forte, aussi insensible, aussi rationnelle que ce que les idéaux masculins nous vendent comme étant un modèle, en fait, comme étant un objectif de vie, je pense que ça, c'est mauvais. Et de se dire que finalement, il y a peut-être un pouvoir, en fait, domestique, il y a peut-être un pouvoir de la cuisine, il y a peut-être un pouvoir des couches lavables, un pouvoir de vraiment, ouais, de se réapproprier, de créer, en fait, de revenir à ça. Je pense que ça peut être une bonne, enfin ça peut être une bonne porte d'entrée dans le féminisme, mais une bonne porte d'entrée pour dire qu'il y a d'autres, il y a d'autres endroits en fait qui sont possibles à investir au-delà de la catégorie domestique et la catégorie publique, et que ce ne sont pas que les femmes qui sont invitées en fait. Ça aussi il faut le dire. Même ce côté-là d'être dans le care, dans le soin, dans l'empathie, on n'invite vraiment pas que les femmes. Alors en fait malheureusement on s'y reconnaît plus rapidement, c'est normal parce que historiquement on y a été assigné depuis très longtemps. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes non assignées femmes qui pourraient en fait s'y reconnaître et qui pourraient investir ce terrain. Donc j'invite toutes les personnes, hommes ou femmes, à justement essayer de se réapproprier tout ce pouvoir-là, parce que vraiment, ça, ouais, je pense que ça rend heureux en fait.
Céline, sur l'application France Inter, nous dit « C'est quoi ces clichés? Mes filles utilisent le barbecue, on parlait tout à l'heure du barbecue. Je me dis plus qu'elles doivent être autonomes en toute situation et pas dépendantes d'hommes. Il faudrait peut-être arrêter de tout mélanger. » J'imagine que c'est quelque chose que l'on vous dit souvent, que vous mettez tous les hommes dans le même panier finalement.
Oui, mais j'ai pas besoin d'être écoféministe pour le coup, juste féministe, ça suffit. Oui. Alors oui, il y a des filles qui font le barbecue, comme il y a des hommes qui font la cuisine. Comme, d'accord, oui, je le comprends parfaitement. Sauf que derrière, il y a des chiffres qui nous montrent que globalement, en tout cas dans la majorité, bah c'est plus une catégorie genrée homme ou genrée femme. Et surtout, en fait, quels idéaux, quelles idées ça véhicule. Et en fait, le jour où le barbecue et où cuisiner de la chair vive, c'est un idéal féminin. Faudra qu'on m'appelle, parce que c'est pas le cas en fait. Donc même si les femmes en fait commencent à réinvestir ces terrains, ce que je pense absolument pas positif au passage d'ailleurs, moi je milite pas pour qu'il y ait plus de femmes qui bossent dans les usines nucléaires ou qui soient PDG de multinationales qui assassinent le vivant, pas du tout. Le fait que les femmes investissent en fait ces terrains-là n'est pas quelque chose de représentatif, parce que la viande en tant qu'animal mort, en tant que corps cuisiné, le sang, la chair, c'est vraiment lié à un idéal viriliste en fait. Et presque c'est bien quoi, parce que ça nous montre que finalement c'est ça qu'il faut combattre et c'est ça qu'il faudrait abolir. Donc non, pas plus de femmes dans les barbecues, mais plus de mecs à la salade quoi.
Puisque vous reparlez des animaux, Myriam Bahafou, Chloé nous écrit. Elle écrit: j'aimerais savoir ce que pense votre invité du sort des vaches laitières, des poules pondeuses et même des poissons féminines. On parle de poulets et de bœufs alors que ce sont majoritairement des femelles que l'on mange.
Oui, c'est une très très bonne question. Ça a été beaucoup étudié pour le coup par Carol Adams ou d'autres écoféministes américaines qui se sont penchées sur la question spécifique des animaux et des corps femelles animalisées ou des corps animaux féminisés. Donc voilà, ça, c'est des notions un peu compliquées comme on pourra reparler
oui,
éventuellement.
Un peu théorique,
mais... oui. Voilà, c'est ça. Mais en gros, c'est de dire que oui, l'industrie animale, elle n'est pas toute homogène, elle n'est pas toute lisse en fait. Et elle se base, encore une fois, comme l'invité Gilles l'avait suggéré tout à l'heure, sur la fécondité en fait, sur la reproduction. Et il s'avère que de toute façon, pour développer une industrie, bah, va falloir se faire reproduire en fait, faire reproduire les éléments, les produits de cette industrie. Et dans le cadre de l'industrie laitière, effectivement, ce sont les vaches qui sont exploitées, pas pour leur statut d'animal, mais pour le statut de femelle, en fait. Donc ma question, enfin mon questionnement est aussi parti de là, de me dire, ok, est-ce que vraiment on peut imaginer une société qui soit féministe, qui soit même égalitaire homme-femme, quand on sait qu'on prend des corps femelles vaches et qu'on les insémine violemment, de façon systémique sur des milliards d'individus, en fait. Est-ce que là, vraiment, on peut réussir à se dire « Ok, c'est une société féministe ?» Pour moi, non, en fait. Parce que de toute façon, on est basé sur une exploitation des corps femelles. Donc, c'est une super porte d'entrée en fait dans le féminisme.
Myriam Bahafou, on aurait encore beaucoup de questions pour vous, mais je vais juste vous en poser une. Quel souhait pour 2020?
Waouh, quel souhait pour 2020? je souhaite que les mouvements féministes et les mouvements écoféministes, enfin tous confondus, comprennent que justement au-delà de cette catégorie de femmes qui peut faire peur en fait, parce que c'est vrai que se dire on est femme, on a un corps de femme, on reste dans le corps de femme, de se dire qu'au-delà de ça c'est vraiment d'abolir en fait cette catégorie-là. Ça je pense que c'est quelque chose qui est souhaitable et qu'on peut très vite oublier en fait quand on est féministe et du côté écolo la même chose.
Et si vous voulez en discuter avec Myriam Bahafou, eh bien vous avez un groupe de parole écoféministe qui se réunit une fois par mois à Paris. Merci beaucoup.
Merci.
Juste après les infos, le feuilleton de la semaine et nous irons sur un paquebot de touristes en pleine croisière au Groenland pour observer des glaciers avant qu'ils ne disparaissent.
La Terre au carré.
Seconde moitié de la Terre au carré, de l'écoféminisme au castor. Après tout, c'était bien le surnom de Simone de Beauvoir. Sauf qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à l'animal. Le castor qui revient en force en France. On en parlera avec notre invité découverte, Paul Hurel. Lui a fondé une start-up pour redonner de la place au végétal dans le milieu urbain, des arbres, des potagers, un peu d'ombre et de fraîcheur dans ces villes très bétonnées. Hugo Meunier nous racontera sa solution pour la planète dans quelques minutes. Mais avant, notre feuilleton cette semaine, un monde qui fond. N'y voyez aucun rapport avec mon nom de famille. Direction le Groenland avec Guy Van Ctil et plus précisément les croisières de luxe qui se bousculent au Groenland. Rendez-vous compte, 3600 passagers qui débarquent d'un coup, c'est 5% de la population de cet immense pays. Mais pour le moment, eh bien, nous écoutons donc Guy Van Ctil au Groenland.
Nous voilà donc sur le port touristique de Nuuk, capitale du Groenland. Et pendant que là-bas, de l'autre côté, il y a les bateaux de pêche qui sont en train de s'activer, de l'autre côté, il y a un magnifique, mais alors un magnifique, luxueux paquebot qui vient d'arriver, qui s'appelle...
This is the Silver Cloud.
Silver Cloud, le nuage d'argent. Ça, c'est une croisière de luxe.
We have a capacity of 240 passengers.
Nous, on a 240 passagers seulement.
We have five-star dining.
Un dîner 5 étoiles.
An onboard spa.
Un spa à bord.
This is not a parking garage on the sea.
Voilà, c'est pas un garage sur mer.
Now, Silver Sea invites you for a once-in-a-lifetime journey.
Bonjour.
Bonjour. A tourist from Miami, Florida.
Une touriste de Miami, Floride. Vous êtes sur cette croisière, la Silver Cruise, qui a l'air d'une croisière de luxe ultime.
Well, it's very expensive.
C'est très cher.
Indeed, it is. Roughly $1,000 a day.
Ça coûte à peu près $1,000 par jour.
Yeah.
And for how long are you doing the cruise?
This one, 146 days.
Vous faites 146 jours de croisière?
The world cruise.
Oui, si on fait la croisière autour du monde. C'est génial comme retraite, partir sur des croisières de luxe et puis on verra au jour le jour où on va en ayant de l'aventure.
Indeed.
Parce que d'habitude, les gens ils vont en vacances là où il fait chaud, pas là où il fait froid.
Don't you know Donald Trump wants to buy Greenland?
Donald Trump va acheter la Groenland. Ah, c'est ça. Vous êtes des prospecteurs et vous êtes envoyés par Donald Trump pour prendre des options.
Donald Trump wants to buy Greenland.
Donald Trump confirmait son envie d'acheter le Groenland.
Buying Greenland.
We're really here just checking it out. For President Trump.
En fait, on est là, émissaire de président Trump.
Stratégiquement, c'est intéressant. Et nous serions intéressés.
Ouais, faites gaffe, parce qu'après, les gens, ils vont vous regarder bizarrement.
Hein. Holly.
And Gary.
Et vous venez d'où?
Tucson, Arizona.
Ah oui, c'est pas exactement le même climat.
So far, we haven't seen a lot of snow.
On n'a pas vu beaucoup de neige jusqu'à maintenant.
And very few animals.
Et très peu d'animaux.
Oh, I want to see a polar bear.
Moi, je veux voir des ours polaires. Mais est-ce que c'est pas justement ça, un résultat du réchauffement climatique, que vous voyez pas de glace?
That's what they say, and we've had a lot of reports that the glaciers are melting a lot.
Mais c'est ce qu'ils disent. On a vu beaucoup de reportages aux États-Unis. Ils expliquaient la fonte des glaciers.
Everybody thinks we should be doing something, but it doesn't do any good for us to do something unless everybody does something.
Et puis tout le monde dit qu'il faut faire quelque chose, il faut se bouger pour le climat, mais si c'est que nous qui changeons, je ne vois pas ce que ça change, il faut que tout le monde s'y mette.
Yeah,
ouais, et tant que tout le monde s'y met pas, bah, autant que vous, vous en profitiez.
Yeah. No, we do, I think we do our part.
Nous, on fait ce qu'on peut.
When we can.
Quand on peut.
It has to be a global effort.
Mais il faut que ça soit un effort global.
And we should probably catch our bus.
Et on devrait d'abord attraper nos bus climatisés, oui.
Thank you.
Au revoir.
Au revoir.
The Arctic is not a cold and distant dream. It's a choice that will provide warm memories forever.
Ça ne l'arrête pas. Après le paquebot de grand, grand luxe, c'est un gigantesque paquebot de croisière, toute cheminée fumante, le MSC Orchestra.
Yeah.
Il y en a souvent des grands bateaux comme ça à Nuuk?
No, this is the biggest one that I've ever been in Nuuk.
C'est le plus grand qui ait jamais été dans le port de Nuuk.
Yeah, I heard that the people inside the ship is like 5% of Greenlandic population.
Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'à bord de ce bateau, eh ben, il y avait à peu près 5% de la population du Groenland.
Yeah, it's a bit crazy.
C'est un peu fou. Oui, c'est démesuré.
Yeah.
Et là, les gens nous font coucou.
And I'm a bit divided.
Moi, je suis un peu partagé sur quoi penser de ça.
What to feel about it, especially the environmental cause of the ships.
En particulier pour l'impact environnemental de ces énormes bateaux.
And also, when the ships arrive, the tourists get onto the land, and there are a lot of people. But also they don't spend so much money because they eat and sleep on the ships.
Et puis en même temps, c'est pas tellement profitable pour l'économie locale, je me rends compte, parce que quand ces grands bateaux arrivent et que tous les passagers sont débarqués, et ils passent quelques heures en ville, mais ils n'y dépensent pas tellement d'argent puisque tout est compris dans leur croisière.
Yeah. It's a big, big ship, this one.
Ce vol-là, il est vraiment énorme. Voilà, la corne de brune retentit. La croisière s'amuse pendant la fin du monde.
Yeah, before it's too late, actually, yes.
Ils veulent voir le Groenland avant que ça soit trop tard.
Yes.
Avant que ce soit trop tard. Demain, suite de notre feuilleton groenlandais, nous retrouverons Guy Banktil aux côtés de pêcheurs qui profitent du dérèglement climatique, mais qui s'inquiètent pour le reste du monde. Rendez-vous demain, même heure.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Bonjour Hugo Meunier.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'une entreprise Merci Raymond, dont l'objectif est de, je vous cite, redonner de la place au végétal dans le milieu urbain. Merci Raymond, mais qui est Raymond, Hugo Meunier?
Raymond, c'est mon grand-père qui est un agriculteur dans le sud-est de la France, qui m'a transmis cet amour pour la nature. Et venant à Paris pour les études, je me suis rendu compte qu'on était finalement dans une des villes les moins vertes au monde.
Je vous entends pas très bien. Je vous entends pas
oui,
très bien.
Vous
je sais pas. Là, ça y est. Vous
oui,
disiez que donc votre grand-père travaille la terre et c'est lui qui vous a transmis cet amour du vert.
Exactement, l'amour de la nature et de la campagne que j'ai cherche à remettre en place dans les villes et notamment avec un beau terrain de jeu Paris.
Alors à l'origine de cette start-up, vous étiez un collectif de jardiniers. Comment vous vous êtes retrouvés entre vous?
Alors on s'est tous retrouvés à travers différentes compétences, que ce soit des ingénieurs agronomes, des artistes, des ébénistes, des paysagistes ou même des architectes. L'idée, c'était de penser à la ville de demain telle que nous, on aurait envie de la voir dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et celle-ci, effectivement, passe par plus de nature, plus d'agriculture urbaine et périurbaine, et effectivement plus d'expérience pour se reconnecter à celle-ci.
Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire faire pousser plus d'arbres, par exemple?
Entre autres, effectivement, nous on a trois grands axes d'action. Alors, on va avoir du coup créer des îlots de fraîcheur, donc ça peut être des arbres, ça peut être aussi des prairies sauvages sur des toits dans les rues. Donc là, ça va contribuer notamment à la biodiversité. On va avoir également toute la partie qui va être agriculture urbaine et périurbaine. L'idée, c'est effectivement d'avoir des espaces partagés pour cultiver ces légumes. Alors on est conscient qu'on va pas pouvoir se nourrir entièrement grâce à cela, mais ça va contribuer à connaître la saisonnalité des fruits et légumes de saison, ça va contribuer aussi à plus manger de fruits et légumes. et aussi à travers des expériences culinaires. On est parti du postulat qu'il fallait aussi aller de la graine à l'assiette, et on a ouvert un restaurant qui s'appelle Le Relais, qui est dans le 11e arrondissement, et qui utilise des produits issus des toits, mais aussi du périurbain, avec un certain nombre de kilométrages. Sur chaque plat, on sait combien de kilomètres chaque ingrédient a parcouru.
Et ça s'apprend d'avoir la main verte ou pas? Je demande pour une amie.
Alors, globalement, nous, on dit toujours, on a tous la main verte, on a tous des plantes ou des végétaux qui sont adaptés à soi, selon si on a peu de temps pour les arroser ou pour les entretenir. Après, nous, on milite pour le fait qu'il y ait effectivement plus d'éducation à ça, savoir aujourd'hui, peu d'espaces encore sont cultivés, et demain, on espère que tout le monde aura cette sensibilité-là à se dire, bah oui, si je veux une ville plus verte, il faut que je m'implique à mon échelle, et il ne faut pas attendre des collectivités ou des mairies ou même des promoteurs.
De faire quelque chose, quoi. Il faut se prendre par la main verte, justement. Et cette belle action qui s'appelle Merci Raymond, merciraymond.fr, si vous voulez avoir des informations sur ce qu'ils font en région parisienne, et notamment à Grigny dans l'Essonne, à la Grande Borne, rebaptisée la Green Borne. Merci Raymond. Si vous aussi vous êtes à l'origine d'une initiative pour la planète dont vous voulez nous parler, si vous avez besoin d'aide, même pour monter un projet, on attend toutes vos idées sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au carré. Dans un instant, on s'intéresse au plus gros rongeur d'Europe. Non, ce n'est pas le ragondin, mais plutôt son cousin, le castor. Paul Hurel, du réseau Castor, est notre invité découverte juste après Vampire Weekend.
I think I took myself too serious. It's not that serious. Let's go.
La sympathie de Vampire Weekend, extrait de Father of the Bride, leur dernier album que je vous conseille vivement. Vous écoutez France Inter.
La Terre au carré. Élodie Font.
Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor,
Je ne peux pas vous dire s'il a les mêmes lunettes que le père Castor, puisqu'il est en duplex de Cherbourg. Bonjour Paul Hurel.
Bonjour à tous.
Vous êtes ingénieur écologue et coordinateur du réseau Castor à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le Castor est le plus gros rongeur d'Europe et il est de nouveau présent dans de très nombreux cours d'eau en France. Où il vit exactement le Castor ?
Alors le castor, effectivement le plus gros rongeur d'Europe, est un mammifère semi-aquatique, donc il a vraiment besoin de la présence de l'eau et d'une rive piscine assez fournie, donc avec qui va constituer sa ressource alimentaire. Et donc du coup on le retrouve dans les principaux grands cours d'eau français, hein. Il y a toute une histoire sur ce castor, il avait quasiment disparu en Europe. Et il y a eu des réintroductions en fait entre les années 50 et la fin des années 90 qui a permis de revoir le castor revenir en France et dans d'autres pays européens, notamment sur la Loire, sur le Rhône, la Moselle.
On a également 16 000 km hein, aujourd'hui de cours d'eau où on peut trouver le castor.
Tout à fait, cours d'eau, étangs, lacs.
Et alors c'est un animal territorial sur finalement un tout petit espace.
Oui, c'est effectivement une des grosses différences aussi avec le ragondin, hein. C'est que le castor est une espèce très territoriale et qui vit en fait en cellule familiale avec un couple d'adultes fidèles sur 10-15 ans à peu près, hein, c'est la durée de vie en milieu naturel. Et tous les ans, on va avoir un cycle de reproduction de deux jeunes. Ce qui fait qu'on va avoir toujours les deux adultes, les deux jeunes nés l'année d'avant et les deux jeunes qui viendront de naître, donc à peu près 6 à 7 individus sur un petit territoire dans les 300 mètres à 2 km de linéaire de cours d'eau, hein, c'est très peu.
Comment il le défend son territoire ?
Alors il ne défend pas réellement, il n'y a pas vraiment un côté agressif, hein.
Ouais.
C'est plutôt qu'il y a un côté effectivement à déposer en fait une substance qui s'appelle le castoréum, qui a d'ailleurs été une des causes du déclin de l'espèce en Europe.
Parce qu'on s'en sert pour du parfum.
Exactement. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus d'utilisation de cette substance-là, mais en tout cas nous, ça nous sert hein, lors de nos prospections en fait pour savoir où le castor est présent. Il y a plusieurs indices hein, qui permettent de traduire sa présence, mais c'est vrai que le castoréum a une odeur vraiment très forte. Et une fois qu'on l'a dans le nez, on sait le retrouver assez facilement.
Alors on le confond souvent avec son cousin américain qui lui vole un peu la vedette, le ragondin. Hein, vous en parliez. Quelle est la différence entre les deux, Paul Hurel ?
Alors il faut savoir, juste pour rappeler, il y a deux espèces de castors dans le monde. Il y a le castor européen et le castor américain, le castor canadien. Et donc, en fait, le ragondin, lui, est une troisième espèce, effectivement, qui n'a rien à voir avec le castor, qui est originaire d'Amérique du Sud et qui a été introduit dans les années 30 en France pour l'utilisation de sa fourrure, tout simplement, et qui s'est échappé d'élevage. Et ce ragondin-là, c'est principalement l'animal que beaucoup de gens voient sur les cours d'eau, car il y en a partout en France. Mais la grosse caractéristique qui différencie le castor et le ragondin, c'est vraiment la queue. Sur le ragondin, vous avez une queue cylindrique comme un rat, alors que sur le castor, vous avez cette queue plate très caractéristique qu'on peut voir notamment dans le père castor.
Et il y en a partout des ragondins parce qu'ils sont un peu moins fidèles que les castors ?
Alors sur le ragondin, en fait, on a vraiment une stratégie de reproduction qui est pas du tout la même. Hein. Le ragondin va pouvoir se reproduire 2 à 3 fois par an avec 6-7 jeunes à chaque portée. Et il va, nous dirons, tolérer plus facilement il va être un peu moins territorial que le castor. Donc vous allez plus avoir des phénomènes où vous verrez beaucoup d'individus. On parle de surdensité. Alors après, ça dépend de quel côté on se place. Mais en tout cas, on peut voir beaucoup plus de ragondins que de castors, effectivement.
Vous nous disiez tout à l'heure que le castor avait failli disparaître, ne plus exister du tout en Europe. Donc pourquoi ? Parce qu'on se servait du castoréum pour faire du parfum ? Pourquoi d'autres ?
Plusieurs choses, hein. Il y a beaucoup d'espèces comme ça. Il faut savoir que la protection des espèces en France date principalement du texte fondateur de 1968 avec une protection nationale, hein, 1976, pardon, je me trompe de date. Mais en tout cas, grâce à ces protections, on a eu effectivement plusieurs espèces qui ont donc maintenant été protégées, mais avant qu'ils ne l'étaient pas du tout. Donc le castor, comme d'autres espèces, était utilisé par l'homme. Donc il y avait le castoreum hein, qui était utilisé par rapport au castor, mais on avait aussi la chair, la fourrure. Donc l'animal était piégé, chassé sans souci.
On ne le mange plus, hein, le castor.
Non, aujourd'hui on ne le mange plus en Europe, en tout cas. C'est pas la même chose en Amérique où il est encore trappé, mais encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur une autre espèce, hein, le castor canadien. Et donc en Europe, non, l'espèce en fait avait quasiment disparu à la fin du 20e, 1909, et la date vraiment fondatrice où il y a eu une protection de l'espèce. Il en restait moins d'une centaine d'individus dans le sud de la France, et il y a eu des protections comme ça à l'échelle départementale tout d'abord. Puis ensuite dans la Drôme en 1922, et ça a permis à l'espèce de reconnaître progressivement le bassin du Rhône. Et pour l'aider un peu plus, avec que la reconnaissance soit pas seulement naturelle, il y a eu des réintroductions. Donc l'homme a été aidé le castor, effectivement. en leur apportant dans les différents fleuves français comme la Loire, le Rhône, la Moselle, le Rhin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça a été un peu l'image dans d'autres pays européens aussi, on a eu cette recolonisation aidée par l'homme, alors que précédemment, c'était l'homme qui avait fait en sorte que le déclin de l'espèce était quasiment sous notre nez.
Vous parlez du Rhône, par exemple. En Île-de-France, on voit depuis quelques années que le castor est revenu, mais là, il est revenu par ses propres moyens,
tout
sans
à fait.
L'homme.
Là, on arrête de les réintroduire en fait aujourd'hui, parce qu'on trouve que la logique d'aider l'animal comme ça à se réintroduire devient compliquée dans certaines zones où le castor n'est pas encore présent, parce qu'il amène aussi son lot d'inconvénients pour certaines personnes, hein, ça dépend de quel point de vue on se place,
on
mais en tout
parler.
Cas on trouve que la dispersion de l'animal aujourd'hui, sa répartition, on lui fait confiance, on va dire, on laisse la nature se débrouiller, on a déjà su, nous dirons, dans une certaine façon, réparer un peu nos erreurs et réintroduire l'espèce dans 2-3 endroits clés, nous dirons. Et aujourd'hui, en fait, l'espèce recolonise progressivement les cours d'eau, change de bassin versant. Donc, par exemple, pour l'Île-de-France, effectivement, il y a 3 ans à peu près, on a trouvé des castors qui, vraisemblablement, viennent du bassin de la Loire. Donc, ils ont franchi les limites de partage des eaux entre le bassin versant de la Loire et le bassin versant de la Seine, non loin d'Orléans. Et on a quelques individus. Alors, difficile de chiffrer exactement le nombre d'individus quand c'est sur des secteurs de recolonisation comme cela, car il y a très peu d'indices qui sont laissés par l'animal. Mais on a trouvé un terriut non loin de Corbeil-Essonne.
Donc il se déplace un peu quand même.
Mais il se déplace effectivement. C'est sûr, il est très territorial à rester sur des domaines assez petits pour son territoire de vie. Mais lorsqu'il y a un subadulte qui part en quête d'un nouveau territoire, il a quand même des logiques dispersives qui peuvent être assez conséquentes. Alors c'est pas non plus la même chose que d'autres espèces comme le loup, mais on peut voir effectivement plusieurs dizaines de kilomètres de cours d'eau qui ont été prospectés par l'animal, et puis finalement il ne s'arrête pas, soit parce que les conditions de l'habitat ne sont pas favorables du cours d'eau aussi. Hein, il y a des histoires de débit, de profondeur d'eau. Et également à la recherche d'un partenaire, hein, tout simplement.
On dit, Paul Hurel, que le castor est un architecte des zones humides et qu'il peut être un allié pour réaménager ou pour aménager les berges. Comment ?
C'est vrai qu'il y a un véritable enjeu. Hein. Le castor permet vraiment de soulever cette question de la place des zones humides aujourd'hui en France. Alors, il ne le fait pas partout. Au début de la réintroduction de l'espèce en France, il était présent que sur les grands fleuves français, mais il est de plus en plus présent sur des petits cours d'eau où les profondeurs d'eau sont insuffisantes pour lui. Donc, il va créer des barrages. Et donc, c'est vraiment la création de ces barrages-là qui va créer en amont du barrage une rétention d'eau, hein, tout simplement. Et donc, souvent, le cours d'eau peut sortir du limineur. Et là, on a des zones inondées, mais c'est aussi des zones humides. Donc là, il y a tout un cortège d'espèces animales et végétales qui vont venir, qui vont de nouveau être présentes. Et donc là, il y a vraiment un véritable enjeu de cohabitation entre l'homme et l'animal.
Oui, parce que en fait, c'est une ingénieuse idée écologique de faire des barrages pour les castors, puisque d'autres espèces végétales et animales vont s'installer sur ces zones. Mais en même temps, en inondant des parties de champs, par exemple, ça pose des problèmes avec les voisins humains.
Tout à fait. Donc là, c'est aussi un des rôles, hein, du réseau Castor que sur lequel on travaille à l'ONCFS. Et demain, on sera d'ailleurs Office français de la biodiversité. On change de nom à partir de demain. Mais c'est un de nos travaux, effectivement. Une de nos missions au réseau Castor, c'est d'aider à accompagner la présence de cette espèce-là avec les activités humaines. Alors, c'est principalement les peupliers, hein, qui sont à la fois, qui peuvent être inondés par les barrages de Castor, mais aussi coupés par la dent du rongeur. On a également les parcelles agricoles dans une moindre mesure, parce qu'il y a d'autres espèces comme le sanglier qui peuvent entraîner beaucoup plus de dommages que le castor. Et après, tout simplement des autres activités, hein. C'est toute infrastructure, parfois des routes, parfois des maisons qui peuvent être inondées par ces barrages-là. Donc à chaque fois, on a ce rôle en appui avec les services des préfectures.
Et comment vous les protégez ? Paul Hurel, vous les protégez, ces peupliers, par exemple ?
Par exemple, les peupliers, ce sont des gestes assez simples, hein, qu'on s'est inspiré de ce qui se passe aussi en Amérique. Hein. C'est tout simplement de mettre en place du grillage en métal autour des troncs, d'une hauteur suffisante pour éviter que le castor ne monte à 60-70 cm. Là, c'est normalement suffisant pour éviter que le castor ne coupe l'arbre en question. Mais ça soulève après d'autres questions, c'est de savoir qui paye ces protections-là. Donc il y a toujours des échanges avec les propriétaires, de savoir à qui va être la charge de cet aménagement. Donc voilà, il y a ce type de technique.
Surtout si on prend arbre par arbre.
Tout à fait. Donc c'est bien là où il y a souvent des interrogations de toutes les parties prenantes quand on est sur ces zones à enjeu. Et puis il se rajoute à ça aussi des fois la fluctuation, qu'elle soit naturelle du cours d'eau ou autre, qui fait que effectivement la protection elle n'est pas ne va pas se déplacer avec la crue, et donc du coup le castor peut couper, c'est notamment le cas dans les basses vallées angevines, des arbres à plus de 2-3 mètres de hauteur. Donc là c'est vrai qu'il est difficile de trouver certaines solutions, mais on y travaille en tout cas, et on essaye de trouver des solutions à cette cohabitation entre l'homme et l'animal.
Et Paul Hurel, vous qui faites partie du réseau Castor, comment vous vous êtes intéressé à cet animal ?
Bon, c'est venu avec les études. C'est venu avec les études et puis aussi le poste que j'occupe à l'ONCFS où effectivement on travaille
sur
plusieurs espèces.
C'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Hein.
Tout à fait, exactement, et qui donc change de nom de demain.
Mais l'Office français de la biodiversité.
Tout à fait, mais c'est effectivement une de nos missions aussi de travailler sur toutes ces espèces qui sont protégées, qui peuvent entraîner en fait des dommages aux activités humaines. Et il est important, vu que ce sont des espèces protégées, de garantir le bon état de conservation de ces espèces-là, et aussi de faire en sorte que l'homme comprenne l'intérêt de ces espèces-là et puisse cohabiter aussi avec ces espèces. Donc le réseau Castor, c'est venu par passion et aussi via le travail.
On vous a entendu. Merci beaucoup, Paul Hurel, d'avoir répondu à toutes nos questions à 31 décembre. Bon réveillon à vous et à votre famille. Et merci à Maxime Simon pour le duplex dans les locaux de France Bleu à Cherbourg. Merci à Denis Delbecq à la rédaction en chef de l'émission, Sophie Vaux, Chantal Le Montagnier et Clara Marlio pour la préparation des dossiers, Anna Massardier pour les réseaux sociaux, programmation musicale Thierry Dupin. Vous pouvez réécouter cette Terre au carré sur franceinter.fr. Je vous souhaite à tous de bien dire au revoir à 2019 ce soir et d'accueillir 2020 comme il se doit. À demain pour une nouvelle année qui commence avec son lot comme à chaque fois de promesses et d'espoir, et notamment pour la planète.